Vous aimez la littérature ?
Vous auriez essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, c'est de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masques comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir et écrit par un historien qui s'appelle Gérard Noiriel et qui, il y a 48 heures, a donné une conférence au Musée Fabre sur sa dernière publication qui s'appelle « Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours ». Alors, dans son avant-propos, il a une réflexion sur l'histoire et la manière de raconter l'histoire assez caractéristique et qui ressemble étonnamment à ce qu'un grand historien américain qui s'appelait Howard Zinn avait écrit il y a à peu près une quinzaine d'années et qui s'appelait « Histoire populaire des États-Unis ». Et donc il a repris un peu la même formule. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que ça a été édité dans la même maison d'édition, aux éditions Agon. Alors dans son avant-propos, il dit « Il existe deux grandes manières d'écrire l'histoire de la France. La première est collective. Elle consiste à rassembler un grand nombre de spécialistes sous l'égide d'un historien bien placé au carrefour des institutions académiques, de l'édition et du journalisme pour présenter au public cultivé un état du savoir historique à partir d'un fil conducteur assez lâche de façon à réunir les petits producteurs indépendants que nous sommes autour d'une œuvre commune. » Ernest Lavis, Pierre Nora et aujourd'hui Patrick Boucheron. Vous savez, Patrick Boucheron, c'est ce professeur d'histoire au Collège de France et qui a écrit ce texte sur Machiavel, Un été avec Machiavel, dont je vous avais parlé dans une émission précédente. Et donc Patrick Boucheron et ces personnes s'inscrivent dans une longue tradition. La seconde manière est individuelle. Elle caractérise les historiennes et les historiens qui sont arrivés dans la dernière ligne droite de leur carrière et qui exposent leur vision de l'histoire de la France en s'appuyant notamment sur leurs propres travaux. Jules Michelet, Fernand Braudel ou plus récemment Michel Zancarini-Fournel ont incarné cette démarche. C'est celle que j'ai adoptée moi aussi dans ce livre qui est l'aboutissement des 40 années que j'ai consacrées à la recherche historique. Et il dit « La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans cette histoire populaire de la France, j'ai, dit-il, privilégié les questions qui sont au centre de notre actualité, comme les transformations du travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications identitaires. Le but étant de mettre cette vaste réflexion à la disposition du plus large public, j'ai adopté la forme du récit en m'efforçant de présenter sous une forme simple des questions parfois très compliquées. Je vous rappelle que le sous-titre du livre, c'est « De la guerre de 100 ans à nos jours » et ce qui est absolument fantastique dans ce texte, c'est qu'il montre qu'il y a une relative logique, il n'y a pas de rupture nécessaire, même s'il y a des périodes, effectivement, qu'il décrit très bien. Et je vais vous lire un passage de sa conclusion, après ce petit extrait de son introduction. Il dit « Dans son livre programme, Emmanuel Macron qualifie de romantisme juvénile, hors de saison, les analyses marxistes qui mettent en cause l'exploitation de l'homme par l'homme. Pourtant, notre histoire a amplement montré que les classes dominantes ne renoncent pas à leurs privilèges que lorsque le rapport de force les contraint à ces concessions. Croire que l'on pourrait avancer sur le chemin de l'égalité économique et sociale par la bonne volonté et la discussion entre citoyens raisonnables, œuvrant au bien commun, est une autre forme de « romantisme juvénile », entre guillemets, mais celui-ci a toujours été démenti par les faits. Tous ceux qui refusent de se soumettre à la loi du capitalisme financier devraient donc s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour rétablir un rapport de force qui puisse contraindre les milliardaires à lâcher du lest, entre guillemets. Pour cela, il faut commencer par identifier les principaux facteurs qui ont affaibli les résistances populaires. Le premier d'entre eux, on l'a vu, est d'ordre économique. L'extraordinaire développement du capitalisme financier a imposé la dictature des taux de profit. Comme beaucoup de sociétés françaises sont détenues, au moins en partie, par les actionnaires des fonds de pension anglo-saxons, la marge de manœuvre des dirigeants de l'État français s'en trouve de plus en plus limitée. Ceci d'autant plus que la brutale accélération de la mondialisation des échanges a provoqué la délocalisation d'un grand nombre d'entreprises vers les pays à bas salaire, ce qui a porté un coup mortel à l'industrie française. La montée incessante du chômage a permis au patronat d'exercer un chantage à l'emploi pour imposer toujours plus de flexibilité aux salariés. Les nouvelles technologies ont été utilisées dans le même but pour démanteler les collectifs ouvriers au profit d'une gestion individualisée du personnel. La liquidation des grandes entreprises où s'était construit le mouvement ouvrier industriel, la précarisation du travail et les débuts de l'ubérisation de l'économie ont donc conjugué leurs effets pour affaiblir les structures que s'étaient données les travailleurs au cours des siècles passés afin de défendre leurs droits. Alors, je vais m'arrêter là dans la lecture que je fais de ce texte, mais pour vous dire qu'il a fait paraître ce texte avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Mais quand vous lisez ça, vous comprenez exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand les élites démontent, les élites politiques, économiques, etc., démontent pour des raisons de pouvoir les organisations, etc., ils se retrouvent face à un mouvement qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Merci beaucoup.